Chapitre 6. Une méprise de l'hôte jette Sophie dans la plus affreuse consternation. Mrs. Fitzpatrick continuait son récit lorsqu'elle fut interrompue par l'arrivée du dîner, au grand chagrin de Sophie. Car les infortunes de son amie avaient excité en elle le plus vif intérêt et ne lui laissaient plus d'autre besoin que celui que Mrs. Fitzpatrick allait satisfaire en achevant son histoire. L'hôte se tenait auprès de la table, une assiette sous le bras, avec un maintien aussi respectueux que si ces dames fussent arrivées dans un carrosse à 6 chevaux. La dame mariée paraissait moins affectée de ses propres malheurs que ne l'était sa cousine, car la première mangea de fort bon appétit, tandis que l'autre pouvait à peine avaler un morceau. Sophie paraissait aussi plus triste et plus accablée que Mrs. Fitzpatrick, qui, s'en étant aperçue, pria son amie de prendre courage, en lui disant « Tout cela finira peut-être mieux que ni vous ni moi ne nous y attendons. » L'hôte crut alors trouver une occasion favorable pour ouvrir la bouche et prit le parti de ne pas la laisser échapper. « Je suis fâché, madame, dit-il, que votre grandeur ne puisse manger, car sûrement vous devez en avoir besoin après un si long jeûne. J'espère que votre grandeur n'a aucune inquiétude, car, comme dit madame, qui est là, tout peut finir mieux qu'on ne s'y attend. Un gentilhomme qui était ici tout à l'heure a apporté d'excellentes nouvelles, et peut-être quelques personnes qui se sont adroitement échappées pourront gagner Londres avant qu'on ait pu les atteindre. Et dans ce cas, je ne fais aucun doute qu'elles n'y trouvent des gens très bien disposés à les recevoir. Tous ceux qui ont des motifs de crainte convertissent en de nouvelles craintes tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Sophie conclut donc aussitôt du discours précédent qu'elle était connue et poursuivie par son père. Elle fut sur le champ frappée de la plus cruelle consternation et ne put pendant quelques minutes articuler un seul mot. Elle n'eut pas plutôt recouvré la parole qu'elle pria l'hôte de renvoyer les domestiques qui étaient là et, s'adressant à lui, « Je vois, monsieur, lui dit-elle, que vous savez qui nous sommes. Mais j'ose espérer, oui, je suis même convaincu que si la pitié ou la bonté ne sont pas étrangères à votre cœur, « vous ne nous trahirez pas. »« Moi, trahir votre grandeur ?» dit l'hôte. « Non. » Et il appuya ce « non » des serments les plus énergiques. « Je me ferai plutôt couper en 10 000 morceaux. »« Je hais toute espèce de trahison, moi. »« Je n'ai encore jamais trahi personne de ma vie, et sûrement je ne commencerai point par une aussi jolie dame que vous. »« Tout le monde me blâmerait extrêmement, puisqu'il sera sitôt au pouvoir de votre grandeur de me récompenser. » Ma femme peut l'affirmer pour moi. J'ai reconnu votre grandeur du moment où elle est entrée dans la maison. J'ai dit tout de suite que c'était votre grandeur avant de vous avoir enlevé de votre cheval. Et j'emporterai au tombeau les contusions que j'ai gagnées à votre service. Mais qu'importe, lorsque j'ai eu le bonheur de sauver votre grandeur. Il est sûr que ce matin il était venu dans l'idée de quelques gens de gagner une récompense, mais jamais une telle pensée ne m'est venue dans la tête. Je mourrais plutôt de faim que d'accepter aucune récompense pour trahir votre grandeur. Je vous promets, monsieur, dit Sophie, que s'il est jamais en mon pouvoir de vous récompenser, vous n'aurez pas à vous repentir de votre générosité. Ouais, madame, répondit l'hôte, et qui doute que ce ne soit en votre pouvoir? Le ciel puisse-t-il vous en inspirer également la volonté? Je crains seulement que votre grandeur n'oublie un aussi pauvre homme qu'un aubergiste. Mais si votre grandeur ne l'oubliait pas, je la supplie de se souvenir quelle récompense j'ai refusée. Refusée, c'est-à-dire que j'aurais refusé, et sûrement on peut bien appeler cela refuser. Car j'aurais pu l'avoir certainement, et sans doute vous auriez pu aller, vous, dans certaines maisons. Mais quant à moi, je ne voudrais pas, je crois, pour tout l'or du monde, que votre grandeur fût injuste envers moi, au point d'imaginer que j'ai jamais pensé à la trahir, même avant d'avoir appris les bonnes nouvelles. « Quelles nouvelles, je vous prie ?» dit Sophie un peu vivement. « Votre grandeur n'en a-t-elle donc pas encore entendu parler ?» répondit l'hôte. « Eh, mais cela peut-être, car il n'y a que quelques minutes que j'en suis instruit moi-même. Et quand je n'en aurais jamais entendu parler, que le diable m'emporte à l'instant si j'aurais trahi votre grandeur. Non, si je l'avais fait, puissais-je ?» Il ajouta ici quelques imprécations effroyables que Sophie interrompit à la fin en lui demandant ce qu'il voulait dire par ces nouvelles. Il allait répondre quand Mrs. Honora, se précipitant dans la chambre, pâle et sans respiration, s'écria « Madame, nous sommes toutes perdues. Notre ruine est assurée. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. » Ces mots glacèrent presque tout le sang de Sophie. Mais Mrs. Fitzpatrick demanda à Honora quels étaient ceux qui étaient arrivés. « Les Français, répondit-elle. Plusieurs centaines de milliers d'hommes de cette nation sont débarqués, et nous allons toutes être massacrés et... » Comme un malheureux qui, ayant dans une grande ville une chétive maison de la valeur de 20 shillings, si le tocsin d'alarme lui apprend la nouvelle d'un incendie, devient pâle et tremblant en songeant à la perte qui le menace, mais qui, dès qu'il est instruit que le feu ne consume que les superbes palais et que sa pauvre petite maison est en sûreté, revient aussitôt à lui-même et sourit à son bonheur, ou comme une tendre mère, car il y a quelque chose que nous n'aimons pas dans notre première comparaison, qui, frappée d'effroi en apprenant que son cher enfant est noyé, tombe sans mouvement et presque morte, mais qui, dès qu'elle apprend qu'il a été retiré de l'eau sain et sauf, et que 1200 braves seulement ont été noyés et perdus avec la bataille, elle reprend le sentiment et la vie, l'amour maternel jouissant de se sentir soulagé de toutes ses craintes, et la bienveillance générale, qui dans un autre temps l'aurait profondément affectée à la nouvelle de cette cruelle catastrophe, demeurant entièrement assoupie dans le fond de son cœur. De même, Sophie, dont le cœur tendre était plus fait qu'aucun autre pour sentir vivement les calamités de sa patrie, se trouva en un moment si heureuse d'être délivrée de la crainte que son père ne fût sur ses pas, que l'arrivée des Français ne fit presque aucune impression sur elle. Elle gronda bien doucement sa femme de chambre pour l'effroi qu'elle lui avait causé, et dit qu'elle était charmée qu'il ne fût rien arrivé de pis, d'autant plus qu'elle avait craint l'arrivée de quelque autre personne. « Oui, oui, dit l'hôte en souriant, Milady sait mieux que nous ce qui en est. Elle n'ignore pas que les Français sont nos meilleurs amis, et ne viennent ici que pour notre bien. Voilà le peuple qui fera refleurir la vieille Angleterre. » Milady pensait, j'en suis sûr, que le duc était arrivé, et cela suffisait pour lui causer de l'effroi. J'allais dire les nouvelles à Milady quand sa femme de chambre m'a interrompu. Le roi, que le ciel le protège, a échappé adroitement au duc et marche en ce moment aussi vite qu'il peut vers Londres, et 10 000 Français sont débarqués pour aller le joindre sur la route. Sophie ne fut pas très satisfaite de cette nouvelle, ni de l'homme qui les lui racontait. Mais comme elle croyait encore qu'il savait qui elle était, car elle ne pouvait avoir aucun soupçon de la vérité, elle n'osa lui témoigner aucun mécontentement. L'hôte ayant ôté la nappe, se retira alors, non sans avoir répété plus d'une fois, en sortant, qu'il espérait bien n'être pas oublié par la suite. Le cœur de Sophie n'était pas du tout tranquille, car elle se supposait connue dans cette maison, et s'appliquait encore beaucoup de choses que l'hôte avait adressées à Jenny Cameron. Elle ordonna en conséquence à sa femme de chambre de tâcher de savoir de lui par quels moyens il était parvenu à la connaître, et qui lui avait offert une récompense pour la trahir. Elle ordonna aussi que les chevaux fussent prêts à 4 heures du matin, heure à laquelle Mrs. Fitzpatrick s'engagea à l'accompagner. Et se remettant ensuite du mieux qu'elle put, elle pria sa cousine de continuer son histoire. Chapitre 7. Mrs. Fitzpatrick termine son histoire. Pendant que Mrs. Honora était allée commander une coupe de punch et inviter l'hôte et l'hôtesse à en venir prendre leur part avec elle, Mrs. Fitzpatrick continua son récit en ces termes. La plupart des officiers qui étaient en garnison dans une ville de notre voisinage étaient de la connaissance de mon mari. De ce nombre était un lieutenant assez joli homme, dont la femme était d'un caractère et d'une conversation si agréable que dès les premiers moments de notre connaissance, c'est-à-dire peu de temps après que je fus accouché, nous devînmes compagnes presque inséparables, car j'eus également le bonheur de lui plaire. Le lieutenant, qui n'était ni ivrogne ni chasseur, était fréquemment de nos parties. Il faut convenir qu'il n'était que très peu avec mon mari et qu'il ne le voyait qu'autant que la politesse l'exigeait d'un homme qui passait presque toute sa vie dans notre maison. M. Fitzpatrick témoignait souvent beaucoup d'humeur de ce que le lieutenant préférait ma compagnie à la sienne. Il était fort en colère contre moi à ce sujet et me maudissait de tout son cœur de ce que je lui enlevais sa société en disant que je devrais être damné pour avoir gâté un des plus jolis garçons du monde et en avoir fait un lâche et un efféminé. Vous vous tromperiez bien, ma chère Sophie, si vous imaginiez que le courroux de mon mari provint de ce que je lui enlevais la compagnie du lieutenant, car ce n'était pas un homme dont la société pût plaire à un sot. Et quand cela eût été possible, mon mari avait d'autant moins le droit de m'attribuer cette perte que le plaisir de ma société était, je n'en doute point, le seul motif qui attira le lieutenant dans notre maison. Non, mon enfant, c'était l'envie, la pire espèce d'envie, celle qui pardonne le moins, l'envie qu'inspire la supériorité d'esprit. Le misérable ne pouvait souffrir que ma conversation fût préférée à la sienne par un homme dont il ne pouvait, sous aucun rapport, concevoir la moindre jalousie. Oh, ma chère Sophie, vous êtes une personne pleine de sens et d'esprit. Si jamais vous épousez, comme cela est extrêmement probable, un homme qui ait moins de mérite que vous, éprouvez son caractère avant le mariage, et voyez s'il peut prendre sur lui de se soumettre à tant de supériorité. Promettez-moi, Sophie, de suivre cet avis. Vous en reconnaîtrez l'importance par la suite. Il est très probable que je ne me marierai pas, répondit Sophie. J'espère au moins que je n'épouserai jamais un homme qui me paraîtrait manquer de bon sens. Mais si cela m'arrivait, je vous promets que je renoncerai plutôt au mien que de m'exposer à d'aussi fâcheux résultats. Renoncez à votre propre bon sens, répliqua Mrs. Patrick. Fi donc, mon enfant, je ne vous jugerai pas si défavorablement. On pourrait m'amener à faire l'abandon de tout autre avantage, mais jamais de celui-ci. La nature n'aurait jamais accordé à la femme cette supériorité qu'elle a en tant d'occasions si elle avait voulu que nous en fissions l'abandon à nos maris. Les hommes de sens eux-mêmes n'attendent point cela de nous, et le lieutenant dont je viens de vous parler en est un exemple remarquable, car bien qu'il eût une raison parfaite, il avouait toujours, ce qui était très vrai, que sa femme en avait encore davantage. Et c'était peut-être un des motifs de la haine que mon tyran avait pour elle. Il disait qu'avant de se laisser gouverner par une femme, et surtout par une femme aussi laide, car ce n'était pas en effet une beauté régulière, quoiqu'elle fût très agréable, il enverrait toutes les femmes au diable, expression qui lui était très familière. Il s'étonnait, ajoutait-il, que je pusse être si charmé de sa société. Depuis que cette femme, poursuivait-il, est venue chez nous, vous avez laissé votre chère lecture, que vous prétendiez aimer, au point de ne pouvoir trouver le temps de rendre des visites aux dames de ce pays. Je dois avouer, en effet, que je me suis rendu coupable de quelque grossièreté à leur égard. Mais les dames de ce pays ne valent guère mieux que les campagnardes d'une autre, et je crois n'avoir pas besoin d'autre excuse pour m'être refusé à toute intimité avec elles. Cette liaison dura cependant une année entière, pendant tout le temps même que le lieutenant était obligé de demeurer à sa garnison. Il est vrai que pour pouvoir m'y livrer, je m'étais résigné à payer à mon mari la taxe assez désagréable de me laisser traiter par lui de la manière dont je vous ai déjà parlé. Je veux dire, quand il était à la maison, car il s'absentait fréquemment un mois de suite pour aller à Dublin et fit une fois un voyage de 2 mois à Londres. Je regardais comme un bonheur qui n'exigea pas une seule fois que je l'accompagnasse dans tous ses voyages. Et même par le ton dont il parlait des hommes qui ne pouvaient voyager sans avoir, pour me servir de ses propres expressions, une femme toujours sur leurs talons. Il me faisait suffisamment entendre que quand j'aurais désiré de l'accompagner, je n'aurais formé que des souhaits inutiles. Mais le ciel m'est témoin que de pareils souhaits étaient bien loin de ma pensée. Enfin, mon ami fut éloigné de moi, et je fus encore replongé dans ma solitude et abandonné à la compagnie importune de mes propres réflexions. Les livres seuls me fournissaient quelques consolations. Je lisais presque tout le jour. Combien croyez-vous que j'ai lu de volumes dans l'espace de 3 mois ? En vérité, cousine, je ne peux pas le deviner, répondit Sophie. Combien ? 10 ou 12 ? 10 ou 12 ? 1/2 millier, mon enfant, répliqua Mrs. Fitzpatrick. J'ai lu beaucoup de l'histoire de France de Daniel, beaucoup des vies de Plutarque, l'Atlantide, l'Homère de Pope, les comédies de Dryden, Chillingworth, la comtesse d'Aunois et l'entendement humain de Locke. Durant cet intervalle, j'écrivais à ma tante 3 lettres très soumises, et j'osais le penser très touchantes. Mais comme je ne reçus de réponse à aucune, mon orgueil blessé m'interdit de m'adresser dorénavant à elle. Ici elle s'arrêta, et regardant fixement Sophie, « Il me semble, ma chère, lui dit-elle, que je lis dans vos yeux le reproche d'avoir négligé de m'adresser à une autre, qui m'aurait accordé un plus tendre retour. » « Ah, ma chère Henriette, répondit Sophie, votre histoire sert d'excuse à toute espèce de négligence, et je sens que je me suis rendu coupable de la même faute envers vous, sans avoir eu une aussi bonne raison. Mais continuez, je vous prie, car malgré mes craintes, je brûle de savoir la fin de votre histoire. » Mrs. Fitzpatrick poursuivit donc en ces termes. Mon mari fit alors un second voyage en Angleterre, où il demeura plus de 3 mois. Durant la plus grande partie de ce temps, je menais une vie que rien ne pouvait me rendre tolérable, si ce n'est le souvenir d'en avoir mené une pire encore. Car la solitude absolue ne peut jamais convenir à un être sociable tel que je le suis naturellement, que quand elle vous délivre de la compagnie de ceux que vous haïssez. Ce qui ajoutait encore à mon malheur était la perte de mon enfant. Non que je prétende avoir eu pour lui cette tendresse folle dont je crois que j'aurais été capable dans d'autres circonstances, mais j'étais résolu à remplir dans toutes les occasions les devoirs de la plus tendre mère, et ce soin m'avait empêché de sentir le poids de ce qu'il y a de plus pesant sur la terre, quand personne ne nous aide à le supporter. J'avais passé 2 mois et demi presque entièrement seul, n'ayant vu pendant tout ce temps que mes domestiques, et reçu un petit nombre de visites, quand une jeune dame, parente de mon mari, vint du fond de l'Irlande pour me voir. Elle avait déjà passé une fois 8 jours chez moi, et je l'avais alors invitée d'une manière pressante à y revenir, car c'était une femme d'un esprit agréable et naturel, encore augmentée par une éducation parfaite. Je la reçus donc avec le plus grand plaisir. Peu de jours après son arrivée, me voyant très abattu, cette jeune femme, sans m'en demander la cause, qu'elle connaissait en effet parfaitement bien, se mit à plaindre ma situation, et me dit que, quoique la discrétion m'eût empêché de me plaindre aux parents de mon mari de sa conduite envers moi, ils s'en étaient tous très bien aperçus, en ressentaient le plus vif chagrin, mais que nul n'y était plus sensible qu'elle. Et après quelques propos plus généralisés sur ce sujet, que je ne pus, je l'avoue, m'empêcher d'appuyer, après beaucoup de détours et de précautions préalables, elle me communiqua comme un profond secret, qu'elle m'enjoignait de garder avec le plus grand soin, que mon mari entretenait une maîtresse. Vous imaginez sans doute que je reçus cette nouvelle avec la plus profonde insensibilité. S'il en est ainsi, je vous réponds que votre imagination vous abuse. Le mépris n'avait pas tellement éteint ma colère contre mon mari que ma haine ne reprit le dessus en cette occasion. Quelle peut être la raison de ceci? Sommes-nous donc si horriblement égoïstes que nous puissions être affligés de voir d'autres personnes en possession de ce que nous méprisons? Ou plutôt, ne sommes-nous pas horriblement vaines, et n'est-ce pas là l'outrage le plus sensible que l'on puisse faire à notre vanité? Qu'en pensez-vous, Sophie?
Je ne sais, répondit Sophie. Je ne me suis jamais occupé de ces profondes méditations, mais je crois que la dame fut très mal de vous révéler un pareil secret.
Et cependant, ma chère, cette conduite est naturelle, reprit Mrs. Fitzpatrick, et quand vous en aurez vu et lu autant que moi, vous serez convaincu de cette vérité.
Je suis fâché de vous entendre dire que cette conduite soit naturelle, répliqua Sophie, car je n'ai besoin ni de lecture ni d'expérience pour me convaincre qu'elle est malhonnête, éprouve un mauvais cœur. Je dis plus, il est aussi malhonnête de dire à un mari les fautes de sa femme et respectivement à une femme les fautes de son mari, que d'accuser en face chacun d'eux de celles qu'il pourrait avoir commises personnellement.
Enfin, continua Mrs. Fitzpatrick, mon mari revint, et si je ne me fais pas illusion, je le haïssais alors plus que jamais, mais je le méprisais un peu moins, car certainement rien n'affaiblit davantage le mépris qu'un outrage fait à l'orgueil ou à la vanité. Il eut dès ce moment avec moi une conduite si différente de celle qu'il avait eue depuis quelque temps, et si ressemblante à celle de la première semaine de notre mariage, que si j'avais conservé dans le cœur une seule étincelle d'amour pour lui, ma première passion aurait pu se rallumer. Mais, quoique la haine puisse succéder au mépris, et même l'emporter sur lui, je ne crois pas que cet effort soit possible à l'amour.
La vérité est que la passion de l'amour ne peut subsister longtemps dans l'oubli et l'abandon de l'objet aimé. Mais on ne peut pas plus avoir un cœur sensible sans aimer que des yeux sans voir. Quand donc un mari cesse d'être l'objet de cette passion, il est certainement probable que quelque autre homme, je veux dire, ma chère, si votre mari devient indifférent pour vous, si vous en venez une fois à le mépriser, je veux dire, c'est-à-dire, si vous avez dans le cœur la passion de l'amour, Dieu, je me suis tellement troublé. Mais il est si facile, en s'occupant de ces idées abstraites, de perdre l'enchaînement des idées, comme dit M. Locke. En un mot, la vérité est, en un mot, je sais à peine ce que je veux dire. Mais comme je disais, mon mari revint, et sa conduite, dans les premiers moments de son retour, me surprit extrêmement. Mais il m'en apprit bientôt le motif, et je sus le prix que je devais y mettre. En un mot, il avait dépensé et perdu tout ce que je lui avais apporté d'argent comptant. Et comme il ne pouvait engager son propre bien plus qu'il ne l'était déjà, il désirait se procurer de l'argent pour de nouvelles extravagances, en vendant une petite terre à moi, ce qu'il ne pouvait faire sans mon adhésion. Le seul et unique but de la tendresse excessive qu'il me témoignait alors était donc d'obtenir de moi cette faveur. Je la lui refusai de la manière la plus positive. Je lui dis, et je lui dis avec vérité, que si dans le commencement de notre mariage j'avais possédé tous les trésors des Indes, il aurait pu en disposer, que ma maxime constante avait été qu'une femme devait déposer toute sa fortune entre les mains de l'homme en faveur duquel elle avait disposé de son cœur. Mais que, comme il avait été assez bon depuis longtemps pour me rendre l'un, j'étais également résolu à conserver le peu qui me restait de l'autre. Je ne vous peindrai pas la fureur où le jetèrent ces paroles, et la fermeté avec laquelle je les prononçai. Je ne vous importunerai pas non plus du détail de la scène qui s'ensuivit entre nous. Vous pouvez bien imaginer que l'histoire de la maîtresse n'y fut pas passée sous silence. Elle y figura avec tous les embellissements que la colère et le dédain purent y ajouter. M. Fitzpatrick en parut un peu étourdi, et plus confus qu'il ne l'avait encore été, quoiqu'en général, Dieu le sait, ses idées soient toujours assez confuses. Il ne chercha cependant pas à se disculper, mais il employa une méthode qui me confondit presque autant. Ce n'était rien moins qu'une récrimination. Il affecta d'être jaloux. Il peut, quoique je l'ignore, avoir un penchant naturel à la jalousie. Il faut même que cela soit ainsi, ou je ne sais quel démon la lui aura mise en tête, car je défie tout le monde de jeter le moindre blâme sur ma conduite. Je dis plus, les langues les plus médisantes n'ont jamais osé effleurer ma réputation. Grâce au ciel, elle a toujours été aussi pure que ma vie, et que la calomnie elle-même m'accuse si elle l'ose. Non, ma chère sérieuse, quoique provoquée, quoique maltraitée, quoique outragée dans mon amour, j'ai toujours été dans la ferme résolution de ne pas donner le plus léger prétexte à la médisance. Et cependant, ma chère, il y a des gens si méchants, il y a des langues si envenimées, que l'innocence même ne peut leur échapper. Le mot le plus vague, le regard le plus indifférent, la moindre familiarité, la liberté la plus innocente, sont mal interprétés, aggravés, changés en je ne sais quoi par certaines personnes. Mais je méprise, ma chère sérieuse, je méprise toutes ces calomnies. Ce genre de méchanceté ne m'a jamais donné, je vous assure, un seul moment de trouble ni d'inquiétude. Non, non, je vous proteste que je suis au-dessus de tout cela. Mais où en étais-je? Laissez-moi m'en souvenir. Je vous disais que mon mari était jaloux. Et de qui, je vous prie? De quel autre que du lieutenant dont je vous parlais tout à l'heure? Il fut obligé de se reporter à un an et par-delà pour trouver un prétexte à cette passion que rien ne pouvait justifier. Si tant est qu'il la sentit réellement, et ne fut pas un impudent hypocrite pour s'arroger le droit de me maltraiter. Mais je vous ai déjà fatigué de trop de détails, je vais maintenant me hâter de terminer mon histoire. En un mot, après beaucoup de scènes qui ne valent assurément pas la peine d'être répétées, et dans lesquelles ma cousine prit mon parti avec tant de courage, que M. Fitzpatrick finit par la mettre à la porte, quand il vit que ni par prière ni par menace, il ne pouvait m'amener à ses fins, il prit avec moi les mesures les plus violentes. Vous en conclurez peut-être qu'il me battit. Mais quoi qu'il en ait été très près, il ne se le permit pas. Elle me renferma dans ma chambre, sans me permettre d'avoir plume, encre, papier ni livre. Une servante seulement venait tous les jours faire mon lit et m'apportait à manger. Après une semaine de prison, il me fit une visite, et prenant le ton d'un maître d'école, ou, ce qui est fort souvent la même chose, d'un tyran, il me demanda si je voulais céder. Je répondis très courageusement que je mourrais plus tôt. « Eh bien donc, vous mourrez, et que le diable vous emporte, s'écria-t-il, car vous ne sortirez jamais vivante de cette chambre. » J'y demeurai encore 15 jours, et s'il faut dire la vérité, ma constance était presque à bout, et je commençais à penser à la soumission, quand un jour, en l'absence de mon mari qui n'était sorti que pour un moment, par le plus grand bonheur du monde, un accident arriva. Au moment où je commençais à m'abandonner au plus violent désespoir, tout devient excusable dans une circonstance pareille, en ce même moment je reçus, mais il faudrait une heure entière pour vous conter tout cela en détail. En un mot donc, car je ne veux point vous fatiguer. L'or, le passe-partout de toutes les serrures, ouvrit ma porte et me rendit la liberté. Je me hâtai aussitôt de me rendre à Dublin, où je m'embarquai sur le champ pour l'Angleterre. J'allais sans m'arrêter à Bath pour me mettre sous la protection de ma tante ou de votre père ou de quelque autre de mes parents qui voudrait bien me l'assurer. Mon mari m'a rejoint la nuit dernière à l'auberge où je couchais et que vous avez quitté quelques minutes avant moi, mais j'ai eu le bonheur de lui échapper et de vous suivre. Ainsi, ma chère, finit mon histoire. Elle est assurément fort tragique pour moi, mais peut-être devrais-je vous demander excuse de l'ennui qu'elle vous a causé. Sophie poussa un profond soupir et répondit « Henriette, en vérité, je vous plains de toute mon âme. Mais que pouviez-vous espérer? Pourquoi épousiez-vous un Irlandais? Pourquoi épousiez-vous un Irlandais ?»« Je vous proteste, répliqua sa cousine, que votre critique est injuste. Il y a parmi les Irlandais des hommes qui ont autant de mérite et d'honneur que parmi les Anglais. Et même, s'il faut dire la vérité, la grandeur d'âme est peut-être plus commune chez eux. J'ai eu aussi plusieurs preuves qu'il y a de bons maris, et si je ne me trompe, il n'y en a pas beaucoup en Angleterre. Demandez-moi plutôt ce que je pouvais espérer en épousant un sot, et je vous dirai une grande vérité, c'est que je ne savais pas qu'il en fût un. « Croyez-vous, dit Sophie d'une voix très faible et considérablement altérée, qu'un homme qui n'est pas un sot ne puisse faire en aucun cas un mauvais mari ?»« En aucun cas, répondit Mrs. Fitzpatrick, ce serait peut-être trop affirmé, mais je pense qu'aucun ne doit l'être plus probablement qu'un sot. Parmi tous ceux que je connais, les plus sots sont aussi les plus mauvais maris, et j'oserais mettre en fait que l'homme de sens se conduit rarement très mal envers une femme qui se conduit très bien avec lui. »